Écoute. Écoute.
Bonjour, mon invité aujourd'hui est Armin Arefi, grand reporter au Point, très grand spécialiste de l'Iran, qui a publié il y a 3 ans Un printemps à Téhéran. Vous documentez de façon extrêmement suivie et précise la situation en Iran sur le print ou sur Internet avec non seulement des reportages mais aussi des interviews. Alors le printemps, là vraiment, c'est plutôt l'hiver qui a lieu à Téhéran en ce moment.
C'est plutôt l'hiver quand on regarde les chiffres de la répression. Il y aurait aujourd'hui au moins 458 morts, probablement bien plus. Des milliers d'arrestations et désormais des exécutions après qu'il y a eu une dizaine de condamnations à mort. Donc un hiver en termes de des répressions gouvernementales que l'on attendait, mais également un printemps parce que étant donné la vague de révolte qui secoue aujourd'hui le pays avec des revendications extrêmement profondes et fermes, à savoir la chute du régime islamique. Donc c'est une colère qui ne surprend pas, qui trouve son origine dans la mort en détention de Mahsa Amini, cette jeune iranienne de 22 ans qui a été arrêtée par la police des mœurs pour un voile mal porté et dont le décès durant sa détention, probablement à l'issue de coups portés par les forces de sécurité, a provoqué une vague de colère sans précédent dans le pays. Donc, un printemps que l'on attendait maintenant depuis des années, étant donné l'absence de réformes dont s'est rendu coupable ce régime, mais un hiver en termes de répression, maintenant, c'était pas une surprise, ça fait 43 ans que la République islamique réprime jusqu'à la mort ses opposants et n'accepte pas la moindre réforme.
Parce que dans votre livre, vous montrez justement la complexité de la société iranienne qui très souvent dans les médias occidentaux est résumée à la répression, et vous avez montré au contraire ce qui permet peut-être d'expliquer le mouvement d'aujourd'hui, c'est que derrière la répression, déjà à l'époque, il y avait une société iranienne éduquée, avide de contact avec l'étranger, qui était informée et qui rejetait les aspects les plus répressifs du régime déjà il y a 3 ans.
Oui, ça fait même plus de 3 ans. Quiconque s'est rendu en Iran au cours, on va dire, des 30 dernières années, après la guerre Iran-Irak, 1980-1988, s'est rendu compte de la dichotomie, du paradoxe, de la schizophrénie même de ce pays, de cette société qui est l'une des plus ouvertes du Moyen-Orient, ouverte sur l'Occident, qui la fascine souvent, fière également de cette tradition, ouverte également à l'intérieur du pays avec un besoin, une volonté de liberté d'expression, de liberté individuelle. Vous parliez de l'éducation des Iraniens. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes sont majoritaires à l'université. Les Iraniennes ont moins d'enfants. Il y a moins d'enfants par femme que en France, par exemple. Donc, on a une société très ouverte, très éduquée, pro-occidentale, ce qui est complètement contradictoire avec les valeurs mises en avant par le régime islamique où la femme est soumise à l'homme, la vie d'une iranienne vaut 2 fois moins que celle d'un homme, que ce soit en matière d'héritage, que ce soit en matière de témoignage devant la justice, que ce soit en termes de prix à payer en cas d'homicide. Si jamais la victime est une femme, le prix à payer à la famille de la victime sera deux fois moins élevé s'il s'agit d'une femme que s'il s'agit d'un homme. Donc on a des lois extrêmement rétrogrades basées sur la charia et une société jeune, dynamique, éduquée, qui agit complètement à l'encontre des préceptes formulés par son régime. Donc ce qui arrive aujourd'hui d'une certaine manière, c'est la fin d'une hypocrisie, en tout cas de cette contradiction. Quiconque se rendait en Iran au cours des dernières années se rendait compte de l'extrême opposition de la part de la population à ce régime. Moi, je me souviens, la dernière fois que je m'y suis rendu, ça remonte maintenant à pratiquement 3 ans et demi, Donald Trump venait de déchirer l'accord sur le nucléaire iranien et malheureusement, les Européens ne pouvaient pas contourner les sanctions américaines extrêmement puissantes. Quand je me rendais sur place, j'étais limite en train de m'excuser auprès de la population parce que nous, Européens, ne pouvions pas y faire grand-chose et que le pays avait plongé dans un marasme économique sans précédent. Et bien, l'extrême majorité des gens que je rencontrais sur ma route aux quatre coins du pays me disaient que je n'avais rien compris et qu'en réalité, la cause de tous leurs maux, c'était le régime islamique, c'était l'absence de gestion, c'était l'absence de réforme de ce régime. Donc la contestation était déjà là et si l'on se fie à toutes les révoltes qui ont été réprimées dans le sang au cours de ces 20 à 30 dernières années, on se rend compte que la révolte, elle couve en Iran depuis le début de la République islamique. Lorsque même l'ayatollah Khomeini est arrivé au pouvoir à instaurer la République islamique, à peine 3 semaines plus tard, on a déjà eu des manifestations de femmes qui protestaient contre l'imposition du voile obligatoire. Et ceci parce que ces femmes-là n'avaient pas fait la révolution contre le Shah pour avoir une société islamique, mais pour avoir une société libre et démocratique. Donc, ça fait 43 ans qu'on a, à divers moments, une illustration de la volonté de cette société d'aller vers plus de démocratie, plus de liberté, que ce soit lors des manifestations malheureusement réprimées dans le sang, ou alors lors des élections qui, en Iran, existent. Il y a des élections au suffrage universel, mais elles sont cadenassées par le régime qui, au préalable, élimine la grande majorité des candidats, et surtout ceux qui sont contre l'essence même du régime islamique.
Est-ce que vous pensez, on ne peut pas revenir en arrière, mais est-ce que vous pensez que sans la guerre lancée par Saddam Hussein contre l'Iran, Khomeini n'aurait pas pu imposer cette dictature et que les forces que vous évoquez auraient dès le départ empêché cette dictature et que quelque part, entre tous ces crimes et fautes, Saddam Hussein porte aussi une part de responsabilité dans l'établissement d'une dictature en Iran rendue plus facile quand le pays est agressé par l'étranger?
Alors, tout d'abord, moi, j'étais pas né à ce moment-là. Ce qui ne change rien au fait que je peux avoir une analyse sur ce qui s'est produit. Moi, je suis né en 84, donc 5 ans après le début de la guerre. Donc, je suis né en France, pour le rappeler, de parents iraniens qui ont quitté l'Iran en 79 et qui sont, pour des raisons non pas politiques, mais pour étudier en France, et qui, depuis, sont restés en France, où je suis né. Donc, je peux pas. Je pense que ce serait trop simpliste de dire que c'est à cause de Saddam Hussein que ce régime est devenu une dictature.
Non, mais ça
maintenant,
a aidé, ça.
Maintenant, forcément, bien sûr, que l'invasion de Saddam Hussein, soutenue à l'époque par l'ensemble de l'Occident, pays européen qui lui fournissait des armes, pays du Golfe qui lui fournissait des pétrodollars, avec le soutien des États-Unis mais également de la Russie, a permis au régime de réprimer d'autant plus à l'intérieur du pays parce qu'il avait l'excuse de cette invasion extérieure. Et d'autre part, le fait que voilà, l'Iran, la société iranienne est une société très nationaliste, elle s'est unie contre l'agresseur, et force est de constater que à ce moment-là, la priorité était la défense du territoire iranien, des frontières de l'Iran, du pays, et pas la lutte contre le nouveau régime, si dictatorial soit-il. Maintenant, force est de constater que les premières années de guerre ont donné l'occasion au régime de réprimer d'autant plus toute forme de dissidence, notamment au sein des mouvements qui avaient fait la révolution à ses côtés, côté des islamistes, que ce soit des libéraux, que ce soit les marxistes, que ce soit les islamo-marxistes, les moudjahidines du peuple, qui, en conséquence, ont entamé la lutte armée et une vague d'attentats, notamment contre les dirigeants islamiques de l'époque. Donc, force est de constater avec le recul que oui, cette invasion extérieure a soudé, d'une certaine manière, la population derrière le régime, en tout cas au début de la République islamique, et qu'elle a favorisé également la répression farouche du régime islamique contre toute forme d'opposition. Cette répression qui a atteint son paroxysme à la fin de la guerre Iran-Irak, lorsque, profitant d'une des dernières incursions irakiennes avec l'aide des moudjahidines du peuple, ses opposants iraniens à l'époque qui s'étaient réfugiés en Irak aux côtés de Saddam Hussein, le régime islamique en a profité pour exécuter des milliers d'opposants, dont une majorité de membres des moudjahidines du peuple au sein des prisons iraniennes. À l'époque, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que dans le fameux comité de la mort, le funeste comité de la mort qui avait été créé pour signer les condamnations à mort d'opposants, on avait le procureur adjoint de l'époque, le président Raisi, qui à l'époque n'était pas encore président, Ebrahim Raisi, qui a donc d'une certaine manière du sang sur les mains. Il ne faut pas oublier enfin qu'à la fin de cette guerre, lors de cette fameuse vague de répression, des milliers d'opposants politiques ont été tués et que parmi eux, ceux qui étaient, notamment les femmes, qui n'étaient pas majeures, étaient violées pour ne pas accéder au paradis, donc violées par leur geôlier, ce qui est tout de même terrible. Je pense qu'il est très intéressant aussi de noter ce qui s'est passé durant cette guerre, à savoir que l'Irak, soutenu par l'ensemble du monde occidental, mais également des pétromonarchies du Golfe, a vu face à lui une résistance farouche de la part de la population, de l'armée iranienne, mais également d'un nouveau corps, les gardiens de la révolution, sorte de garde prétorienne du régime, armée idéologique de la République islamique. Et ce sont ces gardiens de la révolution qui, une fois la guerre terminée avec des frontières a changé en 1988, en ont profité pour se voir rétribuer avec, en s'emparant d'une partie de l'économie du pays et que l'Iran a développé à partir de la fin de la guerre Iran-Irak une sorte de complexe obsidional, à savoir que pour les gardiens de la révolution et pour le régime islamique, la seule façon de ne plus jamais se voir répéter ce scénario, de ne plus jamais être envahi, ce serait de s'ingérer dans les affaires extérieures de ses voisins, notamment ses voisins de la région. C'est à cette date que les gardiens de la Révolution ont entamé leur politique impérialiste de soutien à tous les mouvements anti-américain ou anti-israélien dans toute la région, et une ingérence qui aujourd'hui est vraiment véritablement décriée et tant décriée par les pays voisins de l'Iran.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de la part du régime de finalement permettre l'éducation des femmes tout en les discriminant et donc finalement en se constituant des gens qui vont forcément s'opposer à lui?
Je pense que c'est la principale contradiction de ce régime qui a quand même permis en créant notamment les universités libres islamiques, à un grand nombre d'Iraniennes, notamment d'Iraniennes de provinces plus reculées, d'accéder à l'éducation, d'accéder à l'université et d'échapper au joug de leurs parents, du patriarcat, ce qui, à moyen terme, a fait d'Iran l'un des pays les plus éduqués de la région. Et aujourd'hui, on voit bien que ce sont dans les universités notamment que se nourrit la contestation contre le régime. Donc, il y a clairement une sorte de contradiction, d'autant que ces femmes, aujourd'hui majoritaires à l'université, dont ils souhaitaient qu'elles soient des femmes éduquées, mais des femmes surtout qui allaient servir leur mari à la maison, sont aujourd'hui des femmes qui aspirent à jouer un rôle actif dans la société et d'avoir un emploi comme toute femme dans le monde entier, notamment en Occident. Et ce sont aujourd'hui ces femmes que l'on observe à l'avant-garde de ces manifestations.
Alors, il y a un combat entre la répression et la contestation. Le régime ne Est-ce que le régime peut s'ouvrir ou est-ce que il est entré dans une logique folle de toujours plus réprimer? Et est-ce que la rivière de la colère n'est pas tellement forte qu'il sera difficile de la faire entrer dans son lit aujourd'hui?
Bah, clairement, en fait, 43 ans de République islamique sont là pour nous montrer que ce régime n'est pas réformable, en tout cas qu'il ne veut pas être réformé. Il faut se souvenir du mouvement vert de juin 2009 contre la réélection contestée de Mahmoud Ahmadinejad, l'ancien ultra-conservateur à la présidence, où à l'époque, des millions d'Iraniens étaient dans la rue, non pas pour demander un changement de régime, mais pour demander que leur vote, en dépit des restrictions des élections en Iran, soit comptabilisé. Donc cela fait maintenant, depuis peut-être 1999, première vaste mouvement de contestation au sein des universités en Iran, qui déjà à l'époque avait été réprimé dans le sang, que les Iraniens sortent de façon régulière dans la rue, qu'ils sont à chaque fois réprimés dans le sang. En 2009, encore une fois, les opposants numéro 1 à Mahmoud Ahmadinejad étaient des enfants du régime. L'ancien premier ministre Mehr Hossein Mousavi, candidat malheureux à la présidentielle contre Ahmadinejad, ou l'ancien président du Parlement, Mehdi Karoubi. Ces deux opposants qui souhaitaient simplement que soit respectée la constitution iranienne ont été étouffés. Ils ont été assignés à résidence. Cela fait maintenant 11 ans qu'ils sont assignés à résidence chez eux. Donc jamais la République islamique, et notamment le guide suprême, le véritable chef de l'État iranien, l'ayatollah Khamenei, n'ont souhaité que ce régime s'ouvre. Et c'est là qu'on constate vraiment la lutte depuis des décennies entre les deux factions autorisées par le régime. D'un côté, les réformateurs qui souhaitent que la République islamique perdure, mais en ouvrant le pays à l'étranger, en l'ouvrant au niveau des libertés individuelles dans le pays, et les conservateurs qui, eux, souhaitent la même chose, que la République islamique subsiste, mais en la gardant isolée du reste de la planète et en n'ouvrant surtout pas le pays à toute forme de liberté et d'idées démocrates provenant de l'Occident. Au fil des années, le guide suprême a éliminé peu à peu l'ensemble des forces réformatrices, alors que celles-ci, quand bien même celles-ci, ne remettaient pas en cause le régime. Quand on voit les mandats successifs du président réformateur Mohamed Khatami en 1997 puis en 2001, ainsi que les mandats du président modéré Hassan Rouhani 2013-2017, jamais leurs promesses de liberté de ces candidats qui avaient été massivement portés à la présidence par une grande participation de la population n'ont été écoutées par le guide suprême, alors que d'après moi c'était le meilleur moyen de maintenir la stabilité de la République islamique, donc de ce régime, d'autant qu'à l'époque, la population ne souhaitait pas de révolution. Pourquoi ? Parce qu'ils ont déjà fait une révolution contre le Shah, contre un dictateur soutenu par l'Occident il y a 43 ans. Ils ont eu pire avec la République islamique. La guerre, ils l'ont connue avec l'invasion de Saddam Hussein. Donc pendant 20 années au moins, les Iraniens qui étaient traumatisés et par la guerre et par les lendemains difficiles de la révolution voulaient avancer dans la paix, dans la stabilité, sans révolution. Or, jamais le guide suprême et les forces conservatrices qu'il incarne n'ont été prêtes à la moindre concession vis-à-vis de la population iranienne. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un trop-plein, c'est un ras-le-bol, et il me semble difficile que cette colère s'éteigne, à moins qu'il y ait une réforme profonde du régime qui n'arrivera pas. Pourquoi ? Parce que le port du voile obligatoire, donc le port obligatoire du voile en Iran, c'est un des fondements même de la République islamique, c'est un des fondements même de son identité, c'est l'un des derniers signes concrets de son islamité, et au même titre que l'anti-impérialisme américano-sioniste, comme il l'appelle, ce sont des fondements de la révolution, ou alors de la lutte, de l'aide aux opprimés, ce sont des fondements idéologiques du régime qui sont sa raison d'être et sur lesquels il ne peut pas reculer, parce que le jour où il recule là-dessus, il est fini, il est mort. Donc on voit mal la population renoncer à aujourd'hui sa revendication principale qui est la chute du régime islamique et de l'autre, ce même régime qui est engagé depuis des années dans une fuite en avant, reculer. Donc malheureusement, on est dans une confrontation, on est dans une impasse qui va se poursuivre jusqu'à ce qu'un camp l'emporte sur l'autre. Or, aujourd'hui, le problème principal est que les armes, elles sont du côté du régime et on a vu qu'il n'hésitait pas à les utiliser contre sa propre population.
Et est-ce qu'on pourrait voir une sorte de bacharisation du régime et un régime qui est contesté se met... Déjà, la répression est très forte, vous avez évoqué les chiffres. Et vous avez aussi évoqué dans un article, un interview, les chiffres des morts du côté des forces de sécurité. Donc, est-ce qu'on est au bord de la guerre civile ?
Je pense qu'on est véritablement au bord de la guerre civile et que d'une certaine manière, le régime le souhaiterait. Quand on voit les armes lourdes qui ont été utilisées contre les populations, notamment dans le Kurdistan iranien, à l'ouest du pays, ou dans la région, autre région périphérique du Sistan-Baloutchistan, contre l'ethnie baloutche sunnite dans le sud-est du pays, où plus de 100 personnes ont été tuées en une seule journée, c'était le dernier vendredi du mois de septembre, on sent qu'il y a une volonté des forces répressives du régime et donc des autorités iraniennes de pousser à la radicalisation des manifestants pour mieux les réprimer. La situation est pour l'instant différente dans les grandes villes du pays où, certes, il y a eu des morts sauvages, y compris de mineurs, d'enfants, mais cette répression a surtout été exercée par le biais d'armes de chasse comme tir à la chevrotine, des billes de plomb qui, si elles ont fait des morts et ont été utilisées à bout portant, ne sont pas encore de la même échelle que celles qu'on peut observer dans les régions périphériques. Donc, on sent une volonté des autorités de pousser à d'autant plus de radicalité en utilisant des armes lourdes, mais également en exécutant des manifestants. Il y a au moins deux manifestants qui ont été exécutés au cours des 5 derniers jours.
Après des procès très rapides.
Après des procès expéditifs où ces accusés n'ont pas eu le droit à des avocats et ont le plus souvent réalisé des aveux sous la torture. C'est une pratique courante de la part des autorités islamiques. On sent une volonté de pousser la population davantage de colère pour la réprimer plus facilement. Maintenant, la question...
Néanmoins, ce qui est frappant, c'est qu'au bout de 400 morts, des arrestations, 400 morts plus les blessés, plus les arrestations, plus les violences, la contestation ne semble pas faiblir. Bien au contraire, on a l'impression que chaque mort suscite plus de contestation.
Oui, exactement. On sent que toutes les occasions sont bonnes pour manifester, si je puis dire, et que, comme vous le dites, chaque mort suscite encore plus de protestations, car il y a des traditions dans l'islam chiite de commémorer un mort 3 jours après sa mort, une semaine, 40 jours. C'est exactement ce qui s'est produit il y a 43 ans lors de la révolution contre le Shah et qui a abouti au bout de 1 an et demi de manifestations continues au départ du monarque. Donc, effectivement, ce mouvement est sans précédent dans sa durée. Au contraire des précédentes manifestations, que ce soit en novembre 2019, elles avaient duré 6 jours, malgré des centaines de morts, presque 1500 d'après certaines sources, malgré la répression de plusieurs centaines de morts à la fin 2017-2018, malgré les 150 morts en 2009 lors d'une révolte qui avait duré pour sa partie la plus forte, 2 semaines, on sent cette fois un mouvement qui est ancré, plus uniquement au sein des couches aisées, mais également chez les populations les plus défavorisées, aussi bien dans les villes que dans les régions plus périphériques et plus reculées, chez toutes les classes sociales. Donc ce mouvement dure, s'auto-alimente. On a des manifestations, mais on a également de grands mouvements de désobéissance civile. On voit, par exemple, ces jeunes qui font tomber les turbans des mollahs en tant que symbole du pouvoir clérical en vigueur en Iran depuis 43 ans. On voit ces femmes qui brûlent le voile, encore une fois, je le répète, non pas contre le voile en tant que tel, mais contre son obligation, qui est l'un des symboles de cet islam politique chiite en vigueur en Iran depuis 43 ans. Et en dépit de cette répression féroce, on sent des gens qui n'ont plus peur. Il y a vraiment un rideau de la peur qui est tombé. Et quand on discute avec les manifestants, en tout cas depuis Paris, ceux-ci nous disent que leur vie est devenue un tel enfer qu'ils n'ont plus peur de la mort. Et c'est quelque chose vraiment qui a changé, contrairement aux précédentes manifestations en Iran.
Alors c'est une mobilisation qui s'est faite par les réseaux sociaux, qui est très virale, mais qui n'a pas de leader.
C'est une révolte qui n'a pas de leader identifié. C'est aussi une de ses forces. Quand on se fie aux déclarations en coulisses des membres du régime qui ont été obtenues notamment grâce au piratage de données de l'agence de presse des gardiens de la révolution qui s'appelle Fars News, on se rend compte justement de l'embarras des autorités et des responsables sécuritaires qui n'arrivent pas à mettre fin à cette révolte, justement parce que il n'y a pas de leader identifié. Ça fait 43 ans que les autorités n'autorisent pas la moindre dissension au niveau politique en Iran. Elles n'autorisent pas de véritables partis politiques autres que ceux qui sont permis par le régime et donc qui reconnaissent la République islamique en tant que telle. Et malgré tout, on a des conseils de quartier, on a des conseils de ville, des groupes comme par exemple les jeunes de Téhéran, les jeunes d'Ardabil au nord-ouest, les jeunes du Sistan-Baloutchistan dans le sud-est, qui se réunissent et qui appellent un instant T à manifester à telle heure, tout à coup, dans la rue, des manifestations extrêmement vives qui rassemblent un grand nombre de personnes et qui s'achèvent au bout de 10-15 minutes avant de recommencer à un autre endroit, dans une autre ville, et qui grâce aux réseaux sociaux, grâce aux smartphones, sont diffusées sur Internet en dépit des coupures et qui donnent un écho mondial à ce qui se passe en Iran. Donc, effectivement, ce côté extrêmement spontané, sans leader spécifique, est une des forces de ce mouvement, mais c'est également une de ses faiblesses, car il n'y a pas aujourd'hui d'alternative politique qui est exprimée par ces manifestants, autre qu'une république laïque iranienne dans les frontières actuelles, respectueuse du droit de chaque minorité et de chaque personne qui déciderait ou non de croire en Dieu.
Quelles seraient les conséquences géopolitiques de la chute du régime ?
On n'y est pas encore, parce qu'il ne faut pas oublier que le régime, pour l'instant, n'est pas sur le point de tomber, mais ça serait considérable, je pense, au niveau régional. Tout d'abord parce que, de ce que l'on voit, l'Iran est un des premiers pays musulmans de la région qui est en train de sortir de l'islam politique par le bas. Il est en train de se séculariser. Donc c'est un message phénoménal qui est envoyé au reste de la région, notamment du monde arabe, qui, pour l'instant, en tout cas, n'en est pas jusque-là. Moi, j'ai tendance à dire que les Iraniens ont réalisé leur printemps perse en 1979 en se débarrassant d'un dictateur soutenu, moderne certes, mais dictateur n'autorisant pas la moindre voix discordante soutenue par l'Occident. Et donc, ils ont obtenu la fin en 1979. Ils ont également connu un hiver, plus qu'un hiver, 4 décennies d'hiver islamiste, car c'était la force la plus organisée et incarnée par un leader qui était l'ayatollah Khomeini, qui s'est emparé du pouvoir, qui a ensuite eu fort affaire avec 4 années de pouvoir religieux, renforcé par, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, une guerre imposée de l'étranger. Donc, ça aurait des conséquences par rapport à tous les autres pays musulmans et notamment arabes de la région. Ça aurait également des conséquences en termes d'axe régional. On a beaucoup parlé au cours des dernières années de cet axe formé d'un côté par l'axe chiite, formé par l'Iran, qui a étendu son influence, profitant des erreurs américaines, jusqu'à l'Irak et jusqu'à la Syrie. Et l'Iran, faut pas oublier que ça a été un des principaux pays à soutenir Bachar el-Assad dans la répression féroce de son propre peuple. Et ceci va jusque au Liban, avec la principale réussite, entre guillemets, de l'Iran au cours de ces 40 dernières années, à savoir la création et l'essor du Hezbollah en tant que mouvement politique libanais, qui est un peu le faiseur de roi aujourd'hui en Liban et sans lequel rien ne peut se faire au sein du gouvernement, et ceci jusqu'au au Yémen, avec le soutien moins affirmé, mais tout de même présent, des Iraniens aux côtés de la milice chiite Houthi, du groupe le rebelle Houthi, qui est engagé depuis maintenant 7 ans dans une guerre féroce contre l'Arabie Saoudite, et qui a réussi au bout de cette année à transformer ce conflit dans lequel s'étaient engagés les Saoudiens et qu'ils pensaient terminer en 2 semaines dans un véritable bourbier. Donc clairement, la chute de ce pouvoir islamique signerait l'arrêt de mort, même si on n'en est pas là, de cet axe Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth et jusqu'à Sanaa au Yémen, et cela serait forcément vu d'un très bon œil par aujourd'hui les principaux rivaux régionaux de l'Iran, en tête desquels figurent l'Arabie Saoudite et Israël, qui d'ailleurs, unis par cette détestation, cette rivalité commune vis-à-vis de la République islamique d'Iran, se sont rapprochés, comme on le sait, au cours des dernières années. Ça a donné lieu à ces fameux accords d'Abraham, notamment entre aujourd'hui qui se sont cristallisé avec cet accord entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, sans parler bien sûr du Maroc, mais qui pourrait, au cours des prochaines années, surtout au moment du décès du roi d'Arabie Saoudite Salman, se transformer en véritable coup de maître avec un accord entre Israéliens et Saoudiens. Mais voilà, on n'en est pas encore là. Mais clairement, les retombées, ce qu'on a tendance à dire aujourd'hui, c'est vrai que l'Iran, la République islamique d'Iran, représente la première victoire de l'islam politique à la tête d'un pays. Il serait normal, d'une certaine manière, en tout cas c'est ce vers quoi on va aujourd'hui en Iran, que ça constitue aussi bien la première victoire de l'islam politique que sa première défaite et le début de la fin pour cette tendance qui a quand même du plomb dans l'aile, même s'il reste une force, l'islam politique reste une force importante, notamment de mobilisation et d'opposition dans beaucoup de pays arabes et du Maghreb. Mais on sent que au cours de ces dernières années, notamment depuis ce qu'on a appelé les contre-révolutions de 2007, c'est une force qui n'a plus le vent en poupe. On l'a vu en Égypte avec le coup d'État militaire contre les frères musulmans Mohamed Morsi. On l'a vu également en Tunisie avec qu'on a appelé le coup de force populaire du président Raïs Saïed. On l'a vu également, et donc au détriment du mouvement tunisien islamiste Nahda. On l'a vu également au Maroc avec la défaite électorale du PJD, même si bon, la donne est un peu différente au Maroc avec ce qu'on a longtemps appelé les islamistes de Sa Majesté. Mais force est de constater en tout cas qu'ils ont perdu un grand capital populaire de ce qu'ils avaient engrangé au cours des dernières années, ce qui est d'ailleurs également le cas de Nahda. Donc c'est vrai que l'on constate quand même un recul de cette tendance islam politique, même si encore une fois l'islam politique sunnite et l'islam politique chiite avec un véritable clergé sont deux tendances quand même assez différentes.
Merci Armin Arifi pour ce tour d'horizon, cette lucidité sur la situation en Iran, et on peut vous lire chaque semaine dans Le Point ou sur votre blog.
Merci de m'avoir reçu, merci à vous.